RJB Info.
Le journal Sarah Carole.
Bonjour. Trouver de nouvelles voies pour permettre à d'autres communes de rejoindre le Jura. Après le vote de Moutier, il ne fallait pas en dire plus pour faire bondir les milieux antiséparatistes. Ils réagissent à ces propos tenus hier par le mouvement autonomiste jurassien. Vous entendrez leur réaction et un commentaire de notre chef de région, Alexandre Steiner. Lucelle Sonore se prépare à monter le son. Le festival commence ce soir dans le Jura, mais ne serait rien sans ses bénévoles. Rencontre avec celle qui nourrit la troupe à l'âge de 78 ans. De la chaleur, du vent et peut-être un orage, c'est le programme météo de cet après-midi. Il fait entre 30 et 33 degrés. Mais avant de développer ces titres, nous partons immédiatement à Cours où un incendie s'est déclaré sur le toit de l'usine Tectri. L'alerte a été donnée à 10h40. L'autoroute A16 est fermée entre Moutier et Cours dans les deux sens. On retrouve notre correspondant Lionel Guenin sur place.
Oui, les pompiers sont en pleine intervention en ce moment. On voit à première vue, c'est une épaisse fumée noire qui dégage du bâtiment de Tectri à Cours. J'ai moi-même été dépassé par un des véhicules du service du feu en me rendant sur place. Donc, pour l'instant, il y a très peu d'informations sur les causes du déclenchement de l'incendie. On nous a demandé de rester à l'écart. Pour l'instant, on nous donnera plus d'informations après. Là, les pompiers viennent de mettre en marche une espèce de ventilateur, brumisateur géant pour tenter de maîtriser le sinistre. Voilà, pour l'instant, l'ambulance, les pompiers sont sur place, environ 10 à 15 véhicules. Pour l'instant, on n'en sait pas plus.
Eh bien, merci Lionel pour ces précisions. Nous allons vous tenir bien sûr informés des suites de cet incendie sur notre site rjb.ch. Force démocratique s'insurge contre les déclarations du mouvement autonomiste jurassien. Dans le cadre des commémorations du 23 juin hier à Porrentruy, le secrétaire général du MAJ, Pierre-André Comte, a déclaré que le oui de Moutier devait provoquer l'ouverture d'une réflexion sur les nouvelles voies juridiques et politiques qui permettent aux autres communes qui le souhaitent de rejoindre ultérieurement le canton du Jura. Et de préciser que l'article 53 de la Constitution fédérale qui régit la question du transfert d'une commune d'un canton à l'autre est clairement insuffisant. Contacté ce matin en Italie, le président du mouvement antiséparatiste Force démocratique est outré par ses déclarations. On écoute Jean-Pierre Grabert.
J'aimerais tout d'abord dire que la réaction du MAJ ne m'étonne absolument pas, parce que le MAJ, de même que d'autres mouvements séparatistes, ont toujours agi selon le précepte « ce qui est à nous est définitivement acquis, ce qui est à vous est négociable en tout temps ». Donc je ne suis pas du tout surpris, mais je dois quand même dire que ces déclarations me fâchent, parce que, dans le fond, les milieux séparatistes et le gouvernement jurassien lui-même ont toujours dit, lorsque les phases ultimes des votes prévues par la déclaration d'intention du 20 février 2012 auraient eu lieu, eh bien la question jurassienne serait considérée comme définitivement résolue. Je vois que ces mouvements séparatistes ne tiennent absolument pas parole, ne respectent pas la parole donnée et considèrent que la question jurassienne va se poursuivre durant des années, voire durant des décennies. Cela vraiment me navre et suscite ma plus vive désapprobation.
La dissolution de Force démocratique après les votes de Sorvilliers et Belpraon évoqués dimanche par Jean-Pierre Grabert ne semble donc plus d'actualité. Le président du mouvement ne compte pas s'arrêter tant que ses adversaires ne feront pas de même, comme nous l'entendrons dans le journal de 18h. Et cette nouvelle passe d'armes autour de la question jurassienne vous a inspiré ce commentaire, Alexandre Steiner.
Fort de leur succès acquis de justesse dimanche à Moutier, les autonomistes se sentent pousser des ailes. Pour eux, il semble évident que d'autres communes du Jura bernois suivront. Ils ne s'arrêtent pas à la couronne de Moutier et veulent imaginer de nouveaux moyens de rétablir la souveraineté jurassienne sur l'ensemble du territoire des 6 districts. Comme le dit Jean-Pierre Grabert, ce discours ne surprend pas, mais il agace. Ces nouveaux moyens ont déjà été imaginés. Il s'agissait de la déclaration d'intention du 20 février 2012. Le processus arrive à son terme et il est temps d'accepter une fois pour toutes le verdict des urnes. Non, le Jura bernois ne veut pas rejoindre le canton du Jura. Il l'a dit le 24 novembre 2013 à une écrasante majorité de 72%. Toutes les communes ont dit non, à l'exception de Moutier. Et celles qui souhaitaient encore se prononcer ont pu en faire la demande et cette possibilité possibilité n'a été finalement saisie que par 3 d'entre elles. Les cantons de Berne et du Jura se sont aussi engagés. Le 18 septembre prochain, la question jurassienne sera réglée sur le plan institutionnel. Si le Jura se dit prêt à accueillir d'autres communes, il est peu probable que le canton de Berne entre en matière sur leur départ. Le conseiller d'État Pierre-Alain Schneck l'a dit, Berne a accepté d'aller aux limites de la démocratie et ne fera plus de cadeaux. Conscient de cet état de fait, le MAJ sent bien que l'article 53 de la Constitution fédérale ne suffira pas. Une demande de changement de territoire devrait être acceptée par les autorités et le peuple bernois, ce qui semble aujourd'hui illusoire. Alors quels moyens imagine le mouvement autonomiste jurassien ? Changer la Constitution fédérale pour faire vivre le rêve de quelques militants, alors que la grande majorité de la population du Jura bernois n'en peut plus de cette question et pense déjà à son avenir sans Moutier. Pour que la région puisse enfin avancer, le MAJ ferait bien de s'inspirer des perdants de dimanche et d'accepter avec humilité la fin de la question jurassienne au terme d'un processus démocratique salué loin à la ronde.
Merci Alexandre. Et du côté de Bienne, la clinique des Tilleuls, un nouveau propriétaire. Le groupe zurichois Hirslanden, numéro 1 des cliniques privées en Suisse, a repris l'établissement biennois, Jérôme Beuchat.
Et oui, la clinique des Tilleuls, un nouveau propriétaire. Le groupe zurichois Hirslanden, numéro 1 des cliniques privées, a repris l'établissement biennois. La clinique des Tilleuls était depuis un peu plus d'un mois le sujet d'une bataille entre Swiss Medical Network, filiale d'Aevis Victoria et Hirslanden. Le groupe fribourgeois a manifesté son intérêt pour les Tilleuls en mai. Hirslanden a suivi en juin. Les deux sociétés ont par la suite fait monter les enchères. La bataille a pris fin hier avec le rachat par le groupe zurichois de 64% des actions de l'établissement de soins privés seylandais. Swiss Medical Network a pour sa part obtenu 28% des titres durant la période qui courait jusqu'au 22 juin. Selon la clinique des Tilleuls, ces pourcentages pourraient encore varier légèrement. Un rachat qui semble convenir à l'établissement. La clinique des Tilleuls écrit aujourd'hui que le conseil d'administration a atteint son objectif de s'engager dans une coopération stratégique avec un partenaire solide à un bon prix pour l'ensemble des actionnaires.
Merci Jérôme. Et vous les avez peut-être aperçus si vous circulez en ville de Bienne. Des câbles noirs à même le sol sont installés un peu partout sur les routes. On les retrouve notamment en haut de la route de Rochedette, à la rue centrale, à la route de Brugge ou encore au quai du Haut. Il s'agit de capteurs permanents et temporaires qui servent à compter le trafic. Ces comptages s'inscrivent dans le projet de monitoring de la mobilité de la ville de Bienne. Ils découlent du règlement pour l'encouragement de la circulation piétonne et cycliste et des transports publics adaptés en 2014. Le responsable du projet secteur de la circulation, Gabriele Leonardi.
Le monitoring peut justement nous fournir des informations quantitatives concernant le nombre de véhicules, mais pas seulement véhicules, parce que le monitoring s'étend également au comptage des vélos et également du trafic piéton. Donc ça nous permet d'avoir des données qui peuvent être utilisées pour établir une évolution de la mobilité à long terme à l'échelle de la commune biennoise.
Une fois que vous aurez analysé ces résultats, qu'allez-vous faire ?
Il y a plusieurs objectifs. Premièrement, ce qu'on est en train de faire en ce moment avec également aussi ces comptages temporaires, c'est celui d'établir en état de référence, donc avant la période d'été, pour avoir un certain nombre de données quantitatives et puis également aussi qualitatives avec d'autres indicateurs pour avoir en état de référence, par exemple, avant la mise en service de la branche est de l'autoroute A5, pour ensuite pouvoir recompter dans un deuxième temps, pour pouvoir ensuite comparer les valeurs de l'état de référence actuel avec les valeurs de l'état de référence qui sera fait une fois l'autoroute de contournement A5 en service.
Des propos recueillis par Anastasia Lirti. Un rapport sera rédigé à la fin de la période de monitoring. L'ouverture de la branche est de l'autoroute A5 est quant à elle prévue durant le mois de septembre. Il n'y a pas d'âge pour être bénévole dans un festival. Les petites mains s'activent dans les coulisses de Lucelle Sonore. La 4e édition du festival frontalier débute ce soir pour 2 soirées musicales. Les portes ouvrent à 17h avec Gérald De Palmas en tête d'affiche, accompagné de Last Train, Arcadian ou encore DJ Idem. Suzanne Frankhauser tient en famille le motel Noirval à quelques pas de la manifestation qu'elle a vue naître il y a 6 ans. Âgée de 78 ans, elle s'occupe de faire à manger aux bénévoles et se tient prête pour donner les coups de main nécessaires. Suzanne Frankhauser.
Je fais à manger et puis on s'arrange entre nous, on leur porte, ils viennent chercher. On en a des fois 40, 50, 60, ça dépend. Déjà depuis 15 jours. Et puis il y en a toujours plus, hein. C'est toujours plus intéressant.
Comment vous avez accueilli l'idée de festival de musique ici à Lucelle ?
C'est 4 copains autour d'une table qui ont décidé tout d'un coup de faire quelque chose à Lucelle. Il y a le fils, il y a le Surgan, ils étaient 4. Ils ont mis ça sur pied. Bon, c'était pas facile les premières années. Puis moi, je trouve que cette année, c'est formidable. Le temps est là aussi. Puis moi, j'aime ces jeunes qui font, qui inventent quelque chose. Autre chose pour Lucelle, hein. Il faut aussi un peu changer des fois, hein. Alors au festival, on essaye de faire mieux un peu plus vite ici, puis après, on va faire le tour.
Qui c'est que vous avez envie d'écouter cette année?
Tout le monde. J'aime bien les écouter tous. De toute façon, on les entend, hein, là. Non, non, moi j'aime beaucoup ça.
Et ça apporte une nouvelle dynamique au village aussi?
Oui, parce que c'est franco-suisse, hein. Alors il y a des Suisses, des Français, il y a des Suisses-Allemands, il y a un peu tout le monde, hein. Ici on est un peu en carrefour de plusieurs routes, hein. On a fait les choses un peu comme elles se présentent. On a un peu changé ça, un peu changé ceci, ça dépend un peu du moment, du temps, de ce qu'il faut faire. On est bénévole, mais on est là où il leur manque quelqu'un, où il faut leur donner le coup de main. Et puis tous ceux qui tournent là autour, c'est ça qui est formidable. Il y a des plus jeunes, il y a des plus vieux, il y a toutes sortes de monde qui tournent autour de ça, puis moi je trouve ça extraordinaire.
La 4e édition de Lucelle Sonore se tient ce soir et demain soir. Nous vous proposons une émission spéciale cet après-midi dès 16h avec Aileen et Yves pour prendre la température et rencontrer des artistes juste avant l'ouverture. La Poste appelle ça un développement. Elle a fait ce matin à Berne l'état des lieux du redimensionnement de son réseau. Elle va bien fermer entre 300 et 400 offices de poste en Suisse d'ici à 2020, mais elle clame haut et fort que le réseau va se renforcer. La Poste annonce encore qu'elle va examiner au cas par cas avec les communes la situation des 459 offices menacés. Avec cette promesse, il n'y aura pas de fermeture sans solution de remplacement. Et en précisant que les communes qui ont déjà une agence postale dans un commerce ne se plaignent pas. À Berne, Serge Jubin.
La tension était palpable ce matin au siège de la Poste au Wangdorf à Berne. La directrice générale Suzanne Rouhoff a longuement plaidé pour que la raison l'emporte sur l'émotion provoquée par la crainte du changement. Avec ce message majeur, la Poste ne délaisse pas les régions. Au contraire, la Poste reste dans les villages, clame le responsable du réseau Thomas Bauer. Mais elle doit se transformer en raison des besoins et des habitudes des clients. Et surtout, elle va renforcer ce réseau. Les chiffres assénés par la Poste, il y aura en 2020 4200 points d'accès aux services postaux en Suisse contre 3800 aujourd'hui. Mais dans le même temps, le nombre d'offices postaux a été ramené de 1320 à 800 ou 900. 765 offices sont sûrs d'être encore là en 2020, 459 sont menacés et donc quelques 350 seront fermés, remplacés en général par des agences installées dans les commerces avec cette autre garantie assénée, pas de fermeture d'office sans solution de remplacement. La Poste reprend son bâton de pèlerin pour aller évoquer chaque situation et dialoguer avec chaque commune. Dialoguer ou passer en force, la directrice générale de la Poste, Suzanne Rouhoff.
Non, c'est pas juste. Pour ça, on n'a pas fait cette initiative de faire vraiment un dialogue. On a commencé l'automne passé de faire le dialogue avec le canton, de aussi comprendre qu'est-ce que sont les besoins régionaux. Mais j'accepte pas, c'est pas seulement une chose émotionnelle, c'est aussi... On doit aussi voir pourquoi une office de poste, c'est vraiment meilleur qu'une agence de poste. C'est presque la même chose, c'est 97% les mêmes prestations. Il y a une petite chose qui c'est pas possible, par exemple un express en étranger ou une Betreibungsurkunde, je connais pas le nom en français, pardon. Mais il y a, la plupart des prestations sont possibles.
Pour mémoire, 76 offices postaux sur 168 sont menacés dans le canton de Berne. Un quart des femmes de moins de 50 ans prennent la pilule en Suisse. D'après l'Observatoire suisse de la santé, beaucoup d'entre elles n'ont pas conscience des risques qui y sont liés. Le document se base sur des données récoltées entre 1992 et 2012 par l'Office fédéral de la santé publique. Le préservatif et la contraception hormonale sont les moyens contraceptifs les plus utilisés dans notre pays. Des experts indépendants de l'ONU mèneront des investigations en République démocratique du Congo. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme enverra des experts pour mener des investigations sur les abus dans la province congolaise de Kasaï. Le Conseil des droits de l'homme a voté aujourd'hui à Genève ce dispositif après le retrait d'une résolution sur une mission d'enquête internationale. Et le nombre de migrants décédés en mer depuis le début de cette année dépasse désormais les 2000. D'après les indications données aujourd'hui par l'ONU, 2108 personnes sont mortes en essayant de rejoindre l'Europe par bateau. C'est 800 de moins que l'an dernier à la même période. Parmi les victimes, l'immense majorité se trouvait entre la Libye et l'Italie.
RJB, il est 12h30.
Sport.
Il suscite les convoitises de toutes les franchises de NHL. Âgé de 18 ans, le Valaisan Nico Hischier pourrait bien devenir cette nuit à Chicago le premier Suisse choisi en première position de la draft, à savoir le recrutement des hockeyeurs issus des ligues juniors ou amateurs pour la prestigieuse Ligue professionnelle nord-américaine de hockey sur glace. Le jeune prodige du hockey suisse a cartonné cette saison au Québec chez les juniors. Nico Hischier est conscient que les regards sont portés sur lui. Il a fait part de son sentiment juste avant d'embarquer pour l'Amérique du Nord.
C'est l'excitation, je me réjouis vraiment d'arriver à Chicago et d'en profiter avec ma famille. Je crois que c'est de cela que je me réjouis le plus. Je n'ai pas vraiment d'attente particulière, mais je sais qu'à la fin de cette journée, je serai très heureux. Ces dernières années, il y a vraiment eu de bons joueurs suisses. Je pense notamment à Nino Niederreiter qui avait été drafté en 5e position. C'est vrai que beaucoup de personnes m'ont déjà attribué un rôle, le premier même, mais je n'ai pas vraiment envie d'en parler. La nuit va être longue et il y a de très bons joueurs, donc tout peut encore arriver.
Nico Hischier avec la traduction de Marcel Neuenschwander. Et les haltérophiles ont rendez-vous du côté de Tramelan. La 11e édition du tournoi Michel Froidevaux se tient demain à la halle de gymnastique Ouest. Près de 80 athlètes sont attendus.
Je vous l'avais dit ce matin, je vous avais dit qu'il n'allait pas faire chaud, qu'il allait faire très très chaud, et c'est le cas. Le temps est venteux, mais l'air est étouffant. Il se peut qu'il y ait encore quelques nuages qui se développent ci et là sur la région durant l'après-midi. Ils pourront s'activer sous forme d'orage, mais rien de sûr selon Météo News. Si orage il y a, vous qui êtes en pleine, soyez rassurés, ils ne déborderont pas. Côté température, c'est très caliente. Les maximales à Tavannes, Tramelan et Châtimier sont en ce moment de 33 degrés. Il fait 32 degrés à Bienne et dans le Zélande. Demain, les nuages seront de sortie, mais seront discrets. Le soleil lui sera généreux. Les températures à l'aube oscilleront entre 17 et 19 degrés et avoisineront les 31 degrés au meilleur de la journée. Dimanche ressemblera à tous les jours de cette semaine d'un point de vue météorologique. N'oubliez pas de bien vous hydrater, de boire beaucoup, de protéger votre peau si vous vous exposez au soleil et de privilégier les endroits ombragés ainsi que de couvrir vos têtes et celles de vos charmantes têtes blondes.